Radio Kapi.
Oh, Kapi. Des informations avec Désiré Kanyama.
Et tout de suite les titres de ce journal. Nord Kivu, une accalmie s'observe ce lundi matin sur différentes lignes de front entre le FRDC et les rebelles du M23 dans les territoires des Rutshuru. Des sources dans la région disent que l'ennemi a été repoussé sur le front au nord, alors que sur le front du sud, le rebelle occupe le village d'Ntamugenga. Au sud Kivu, le parc national de Kahuzi-Biega risque de disparaître d'ici 5 ans si rien n'est fait pour empêcher les activités de la déforestation en cours. L'alerte est de la société civile environnementale. L'invité de ce journal est le ministre d'État belge et ancien président du Parlement fédéral de la Belgique. André Flao plaide pour un dialogue entre les protagonistes de la crise sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. Et bon après-midi chez vous, Nord Kivu. Une accalmie s'observe ce lundi matin sur différentes lignes de front entre l'armée congolaise et les rebelles du M23 dans les territoires de Rutshuru. Plusieurs sources dans la région parlent d'une avancée des FARDC qui ont repoussé l'ennemi sur le front des groupements Djomba et Busanza au nord, alors que sur le front sud, les rebelles sont donnés à avoir occupé de leur côté le village d'Ntamugenga en groupement de Bouéza. Des détails avec Bernard Denyangui.
Cette accalmie ce lundi s'observe après près de 4 jours d'affrontement entre les FARDC et les rebelles dans le groupement de Djomba, Busanza et Bouéza, territoire de Rutshuru. Dans son communiqué officiel publié hier dimanche, le chef du service de communication des FARDC, le général-major Sylvain Kenge, précise que les rebelles ont essuyé des revers sur les axes Djomba et Busanza où ces attaques ont commencé jeudi et vendredi. Une information confirmée par les sources civiles dans la zone. Celle-ci précise que, sur le front nord, axe Busanza, les FARDC ont repoussé l'ennemi de Musezero jusqu'à Kibaya, environ 2 km de Bunagana, alors que sur le front ouest, groupement de Djomba, l'armée a repoussé le M23 jusqu'à Baseke, dans la localité de Kabindi, 15 km de Bunagana. Par contre, sur le front sud, groupement de Bouéza, les rebelles ont occupé la localité de Ntamugenga après des affrontements presque toute la journée hier dimanche. À présent, presque toute la zone occupée par le M23 est vidée de ses habitants qui ont fui les uns vers les zones sécures en territoire de Rutshuru, les autres vers l'Ouganda. Goma, Bernard Denyangui, Radio Kapi.
À propos de ces affrontements d'il y a 4 jours, entre 4 et 7 civils ont été tués et au moins 40 autres blessés dans le territoire de Rutshuru. Dans son communiqué officiel hier dimanche, le chef du service de communication des FARDC, le général-major Sylvain Kenge, parle de 4 civils tués et 40 autres blessés à Rangira, groupement Djomba et Nyabikoro, en Tamugenga, groupement de Bouéza. Mais la société civile, elle, avance un bilan d'au moins 7 civils tués et plus de 40 autres blessés dans les deux entités. Les deux sources attribuent ce meurtre des civils, dont des femmes et des enfants, aux obus largués lors de ce combat par les rebelles du M23. En bref, 7 corps en état de putréfaction très avancés ont été découverts la nuit de samedi à dimanche par des agriculteurs dans le village de Bombuo et Muolo, dans la chefferie de Walese Vonkutu, au sud du territoire d'Irumu, en Ituri. Selon des sources sécuritaires, ces personnes auraient été tuées par des membres d'un nouveau groupe armé actif dans la zone et dénommé Chini Antuna. Cette situation a provoqué la paralysie des activités dans le centre commercial de Komanda, à 75 km de la ville de Bunia. Ituri encore, 7 personnes sont mortes et 2 autres blessées dans 3 éboulements de terre survenus le week-end dans différents sites miniers dans la commune rurale de Mungwalu, à 85 km au nord de Bunia, dans le territoire de Djougou. Selon les sources locales dans la zone, c'est à la suite des fortes pluies diluviennes qui se sont abattues sur la majeure partie de cette cité minière. Le conseil communal de la jeunesse déplore la complicité de certains agents de l'ordre qui facilitent l'entrée clandestine des orpailleurs dans des sites vétustes dans cette zone. Le point avec Ezekiel Mouzalia.
Le premier incident est survenu samedi en début d'après-midi. Sous une forte pluie qui s'est abattue dans les sites miniers de Gangala, des creuseurs qui s'y trouvaient ont été surpris par une motte de terre qui les a ensevelis. Bilan, 2 blessés qui ont été acheminés dans une structure médicale de la place par la population venue le secourir. En revanche, 2 autres sites dans les groupements Mabilindei et Kilomoto ont cédé le même jour et occasionné des pertes en vies humaines. 5 corps ont été extraits dans le site de Sokomutu et 2 autres dans le camp 17. Le vice-président du conseil communal de la jeunesse de Mungwalu, qui déplore cette perte et dit avoir saisi plusieurs fois les autorités sur la complicité de certains agents de l'ordre qui facilitent l'exploitation illicite des minerais dans cette zone. Le bourgmestre de cette commune indique que la plupart de ces orpailleurs sont contraints par les contextes sécuritaires qui ne leur permet pas de vaquer à d'autres activités telles que l'agriculture. Jean-Pierre Bikilisende.
Le problème, c'est que les jeunes gens, ils sont en train de se battre pour la survie. Actuellement, avec l'insécurité, ils n'ont pas le choix pour travailler dans tel ou tel site. Les jeunes gens sont tous concentrés dans Mungwalu et dès qu'ils apprennent qu'à tel endroit, on peut se débrouiller pour la survie, ils y vont.
Signalons que ces sites accueillent entre 300 et 500 personnes par jour, selon l'autorité municipale. Bounia, Ezekiel Muzalia, Radio Okapi.
Le monde célèbre le 24 octobre de chaque année la journée des Nations Unies. Cette journée offre à la communauté mondiale l'occasion de réaffirmer les idéaux énoncés dans le Charte des Nations Unies. Et comme pour chaque année, le secrétaire général de l'ONU a adressé un message pour cette circonstance. Sous un autre chapitre, au sud Kivu, le parc national de Kahuzi-Biega risque de disparaître d'ici 5 ans si rien n'est fait pour empêcher les activités de la déforestation en cours. Selon la société civile environnementale, la province du sud Kivu perd chaque mois environ 15 hectares de forêt de ce patrimoine mondial. D'où cette sonnette d'alarme après une étude menée sur le niveau de la déforestation dans cette réserve naturelle protégée. Josué Aruna, président de la société civile environnementale, est au micro d'Emmanuel Elamejo-Kabedi.
La situation du parc national de Kahuzi-Biega est très alarmante. Avec ce qui s'observe, la vitesse de la déforestation, où la province est en train de perdre chaque mois 15 hectares, vu la demande en bois et énergie. Aujourd'hui, le coût des sacs de braise est en baisse dans la ville de Bukavu, c'est-à-dire l'offre est plus importante que la demande. Et le parc national de Kahuzi-Biega n'existera pas d'ici 5 ans. Avec la situation d'exploitation minière qui s'ajoute à la demande du bois énergie, et aujourd'hui l'impunité fait face. Et le destructeur de Kahuzi-Biega sont sans sanction aucune. Donc, d'ici 5 ans, le parc national de Kahuzi-Biega va disparaître et les gorilles de plaine de l'Est que nous avons dans la partie de haute altitude vont aussi disparaître, comme nous avons perdu les éléphants au niveau de Kahuzi-Biega. Et la société civile environnementale porte à témoin le gouvernement provincial du Sud Kivu, le gouvernement national de la RDC, mais aussi l'opinion internationale.
Manifestation ce lundi à Kalemie des jeunes du conseil provincial du Tanganyika. Ils revendiquent l'implantation de l'usine de fabrication de batteries électriques dans la province du Tanganyika et non ailleurs. Et pour cause, le lithium, l'une des matières qui entre dans la fabrication de ces batteries, se trouve dans le territoire des Manono au Tanganyika. Le point avec Paul Munanga.
La marche débute au niveau de la place Kisebwe à Kalemie. Sur les calicots, on pouvait lire « Pas d'exploitation du lithium des Manono sans l'usine de fabrication des batteries au Tanganyika ». Les manifestants, une soixantaine au total, se dirigent vers les bureaux de l'Assemblée provinciale du Tanganyika. Arrivés à mi-chemin sur l'avenue Lumumba, ils sont dispersés à coups de gaz lacrymogène par la police. Cependant, ils se réorganisent rapidement et atteignent le point de chute. Sur place, Maurice Kabange, un des manifestants, lit les mémos devant le président de l'Assemblée provinciale.
Le Tanganyika est une province désenclavée à cause notamment des frontières qu'il partage non seulement avec les trois pays africains, mais aussi par le fait d'avoir toutes les voies de transport possibles, à savoir la voie ferrée, la voie routière, la voie maritime, la voie aérienne, un sous-sol vraisemblablement riche ainsi que le secteur de la sécurité en pleine croissance. Notre développement est sur le point de nous être dérobé et nous ne saurons donc pas nous taire face à cette injustice.
Le président de l'Assemblée provinciale du Tanganyika promet aux manifestants de faire parvenir leurs revendications aux autorités à Kinshasa. Kalemi Polemunanga, Radio Okapi.
En bref, au Kasaï oriental, les occupants de 45 parcelles résidant sur le terrain non autorisé de construction à proximité de l'aéroport de Bipemba, ainsi que les responsables des parcelles dont les murs des maisons ou des clôtures débordent jusqu'à l'emprise de la chaussée sur les avenues Tipia et Katomba sont nommés de détruire les reconstructions dans un délai de 2 à 4 jours. Ces décisions sont contenues dans deux arrêtés urbains publiés le week-end dernier par le maire de la ville de Mbujimayi. En bref, au Congo central, la cité de Lukala, dans les territoires de Banzangungu, est sans électricité il y a plus de mois. Le transformateur qui alimente ce coin est une fois de plus tombé en panne. La nouvelle société civile qui livre l'information indique que ce manque de courant a des conséquences dont la recrudescence de l'insécurité. Les vieux Mbaïvanga, son coordonateur, appelle les responsables de la SNEL Congo central à donner une réponse durable à cette question. Dans la province du Maniema, le programme d'appui au développement rural inclusif et résilient, PADRIR, et ses parties prenantes ont validé le week-end dernier à Kindu le plan de travail annuel et budgétaire 2023. C'était à l'issue d'un atelier de validation organisé par le comité provincial de coordination et de suivi. À l'issue de cette rencontre, la coordinatrice intérimaire de PADRIR a fait savoir que ce plan sera aussi validé au niveau national. Véronique Baka explique dans ses propos recueillis par Florence Kizalunga.
Nous planifions aujourd'hui d'abord au niveau provincial et après ce niveau provincial, nous allons partir maintenant au niveau national. On va consolider et on va valider maintenant au niveau du comité national de pilotage. Et pour la première année, comme c'était vraiment l'année de démarrage, le PTB avait été préparé au niveau national. Et l'innovation, c'est que pour les activités que nous allons faire en 2023, c'est des activités qui viennent de la base. Nous avons commencé par annoncer l'activité, nous avons sensibilisé tous les services techniques pour que ils nous envoient des activités qu'ils aimeraient voir apparaître dans le budget de l'année prochaine. Et nous avons eu à consolider tout cela. Nous avons pris les activités conformément au plan de travail, aux documents du projet. Et la science d'aujourd'hui était de leur présenter le résultat de cette consolidation que nous avons faite à partir de leurs besoins. Et ils ont modifié là où il fallait modifier. Ils ont ajouté là où il fallait ajouter. Ils ont retranché là où il fallait retrancher. Et là, à la fin, nous avons maintenant un budget, un plan de travail avec des activités que nous allons présenter au niveau national.
Actualité internationale.
Une ambiance de situation de crise régnait hier dans les villes tchadiennes sous couvre-feu suite aux violences du 20 octobre dernier. 4 jours après les manifestations meurtrières, l'émotion reste palpable. Selon le bilan officiel, près d'une cinquantaine de personnes ont été tuées lors de la répression des manifestations anti-pouvoir. Près de 300 autres ont été blessées. Le personnel de santé reste également choqué par ces jeudis noirs.
L'invité.
L'invité de ce journal est le ministre d'État belge et ancien président du Parlement fédéral de la Belgique. André Flao plaide pour un dialogue entre les protagonistes de la crise sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. Il s'entretient à Bruxelles avec Cynthia Bachizina Bizana.
Monsieur Flao, bonjour.
Bonjour.
Vous aviez dit lors de votre discours au Rebranding Africa Forum qu'on ne construit pas un État du sommet, mais plutôt de la base. Ça veut dire quoi ?
Ça veut dire tout simplement que Dans certains pays, trop souvent, des constructions ou des interventions même de la communauté internationale a été de dire il faut aller vite, un président de la République, un premier ministre, et puis par la suite, on verra bien. On a négligé les communautés locales. Par exemple, pour citer le Congo, les premières élections locales auront lieu l'année prochaine. Et je crois que c'est la meilleure garantie, c'est de travailler avec les communautés locales, avec les chefs coutumiers, et aussi s'appuyer sur l'idée, notamment du président Tshisekedi, des 145 territoires. Je crois que c'est la meilleure façon, c'est travailler à la base, ce qui garantit la stabilité de l'édifice et qui garantit aussi une réponse rapide aux besoins exprimés par la population.
Quelle lecture vous avez aujourd'hui des relations bilatérales entre la RDC et le Congo ?
Alors vous savez qu'au niveau belge, il y a une volonté réaffirmée. La ministre des Affaires étrangères se rendra sans doute prochainement en RDC. C'est un bon signal. Il y a eu la visite royale. Il y a eu ma présence à la cérémonie Lumumba, ici à Bruxelles, mais aussi à Kinshasa. Il y a eu le discours très significatif, avec tous les mots posés, qui étaient bien appréciés par la population congolaise aussi et les responsables, du Premier ministre d'une part et du roi d'autre part. Alors nous ne pouvons pas laisser retomber quelque part cet enthousiasme et ce mouvement, et c'est la raison pour laquelle, de façon systématique, j'intensifie les missions diplomatiques, les partenariats, pour faire en sorte que on puisse arriver à, à ne pas oublier cet engagement que nous avons pris de relancer cette amitié, de relancer ce travail, de relancer les partenariats entre la République démocratique du Congo et la Belgique, à commencer par les liens très forts des différents responsables politiques aux différents niveaux.
Est-ce qu'aujourd'hui la RDC peut compter sur le soutien de la Belgique dans cette crise sécuritaire qu'elle traverse ?
Oui, ça a été dit et redit par les différents intervenants, ministre des Affaires étrangères, mais aussi au Parlement, on le redit régulièrement. Il faut effectivement que l'on puisse soutenir la République démocratique du Congo dans toutes les difficultés où que ça se présente, et il faut absolument que, diplomatiquement parlant, on soit un élément pour amener les protagonistes à se mettre autour des tables plutôt que de laisser parler les armes.
Vous parlez des protagonistes. Aujourd'hui, la RDC accuse ouvertement son voisin, le Rwanda, de l'agresser via le M23. Comment se positionne la Belgique ?
La Belgique, elle prône toujours le dialogue. Elle pose des actes sans nécessairement faire des communications à l'extérieur à l'égard des différents interlocuteurs, parce que je crois que il n'y a aucun responsable politique, et certainement pas au niveau du Congo, où on a envie que des guerres se prolongent, parce que les guerres, ce sont les populations qui en souffrent et les populations les plus faibles. Donc on a un devoir de responsable politique d'appeler, de faire toutes les pressions possibles et imaginables là-bas, ici, à New York et ailleurs, pour qu'on revienne à la raison et que les armes cessent et qu'on revienne à des collaborations peut-être basées sur les richesses économiques de cette région. Nous, au moment, il y a eu après la Deuxième Guerre mondiale, ici, on a recréé la communauté économique du charbon et de l'acier. On a effectivement créé le Benelux, on a créé l'Union européenne. Il y a peut-être à s'inspirer de ce que nous avons fait, parce que plutôt qu'un peuple exploite l'autre, on a utilisé les richesses communes, par exemple dans une communauté économique des pays des Grands Lacs, qui existe toujours et qui pourrait être relancée et qui constituerait une alternative au bruit des armes.
Certains de vos collègues politiques belges plaident pour une diplomatie plus active de la Belgique en faveur de la RDC. Cela reviendrait à quoi, selon vous ?
Je ne sais pas quels sont les collègues qui disent ça. Moi, je ne fais pas de discours et je ne plaide pas, j'agis.
Je vous remercie.
Merci, je vous en prie.
C'était l'invité de ce journal, le ministre d'État belge et ancien président du Parlement fédéral de la Belgique, André Flao, s'entretenait à Bruxelles avec Cynthia Bachizi Nabizana. Je vous rappelle qu'au Nord Kivu, une accalmie s'observe ce lundi matin sur différentes lignes de front entre les FARDC et les rebelles du M23 dans les territoires de Rutshuru. Des sources dans la région disent que l'ennemi a été repoussé sur le front nord, alors que sur le front sud, les rebelles occupent le village d'Ntamugenga. Au sud Kivu, le parc national de Kahuzi-Biega risque de disparaître d'ici 5 ans si rien n'est fait pour empêcher les activités de la déforestation en cours, l'alerte est de la société civile environnementale. Fin de ce journal qui a été coordonné par Élisée Tikota, qui a été supervisé par Martin Sebujangui, Didone Nyangasa a assuré la technique. Merci de continuer à les réécouter sur toutes les plateformes digitales de Radio Okapi.